c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business 102.3 FM dans le Périgord, un nouveau direct depuis nos studios de Coulounieix-Chamier, depuis le Stade Parot dans le Périgord. Aujourd'hui, RLP Business, votre émission sur l'entreprise, nous allons parler informatique, nous allons parler IA, nous allons parler ingénierie, nous allons parler indépendant, nomade et autres. Un petit titre, rêve brisé ou nouveau Eldorado. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Luc Antoine, ancien vice-président de Capgemini, CTO des Financial Services de Capgemini, qui est chez nous à Périgueux avec sa société Seisi Show. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci beaucoup d'être revenu. Ne bougez pas, c'est la chronique de la semaine. C'est tout de suite après ça.
Les actualités.
Explosion de l'IA, intelligence artificielle, transformation du marché du travail en informatique, durcissement réglementaire généralisé, fiscalité internationale, reporting bancaire, contraintes visa, réglementation. Arrivée en Europe, bienvenue dans l'enfer coco en Europe, le DAC6, obligation de déclaration des montages de facturation, le DAC8, transparence sur les cryptos. Jean-Luc Antoine... Qu'est-ce qui se passe en ce moment, l'informatique, c'est plus le grand Eldorado libertarien d'il y a une vingtaine d'années, là, on a changé de contexte.
Effectivement, le côté libertaire, plus il y a de la réglementation, moins on a de liberté, et cette année, on a le Cyber Resilience Act, on a NIS 2 qui est déjà établi au niveau de l'Europe, mais pas encore au niveau français. On a tout un ensemble de périmètres réglementaires qui cloisonnent finalement l'activité informatique.
D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport notre grand sujet ici, c'est les travailleurs indépendants, ceux qui veulent être autonomes, qui veulent quitter le salariat éventuellement, ou créer une petite société et autres. J'ai l'impression que c'est pas forcément évident dans ce secteur-là depuis quelque temps. Là.
Alors, pour plusieurs facteurs. Donc, sur le périmètre réglementaire, effectivement, un nouvel entrant doit se conformer à l'ensemble de ses réglementations. Il faut être un peu expert pour les connaître tous. Donc, c'est délicat. Et si on veut être justement sous-traitant d'une grande entreprise, on doit respecter cette réglementation. Donc, ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle est qu'actuellement, on est vraiment dans une mutation technologique très importante. À partir de 2022, tout le monde a connu les arrivées de ChatGPT, l'IA. Mm-hmm. Mais en fait, opérationnellement en entreprise, l'IA est liée, surtout au niveau des grandes entreprises. Et intervenir en sous-traitance dans ces entreprises sans maîtriser cet outil, ce n'est pas possible. Demain, c'est un élément obligatoire au même titre que, historiquement, il fallait maîtriser Word et Excel. Demain, il faut maîtriser l'IA, absolument.
Bon, on va en parler tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Jean-Luc Antoine de Seisi Show. C'est un de nos talents périgourdins. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Jean-Luc Antoine, une bonne formation de développeur. Vous êtes avant tout, je me souviens, on s'est parlé déjà, vous êtes venu ici il y a un an et demi. Donc vous êtes technicien, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez aussi travaillé, vous savez ce que c'est que le business. On n'est pas vice-président de Capgemini, on ne s'intéresse pas aux marchés financiers, à Saleswork et autres, si on ne sent pas un petit peu l'argent aussi. Très clairement, est-ce qu'il faut encore pousser nos jeunes vers l'informatique en 2026? Est-ce que, moi je suis partie de la génération, l'ordinateur nous a sauvés quelque part. Hein. Quel que soit le milieu social, si vous étiez doué, vous alliez sur une machine, vous pouviez apprendre. C'est le principe de Xavier Niel à l'époque, c'est le principe d'autres. Mais aujourd'hui, ça existe encore, c'est encore l'avenir. On peut envoyer nos jeunes pour faire ça durant 40 ans.
Alors, durant 40 ans, le métier va encore évoluer de nombreuses fois, parce qu'on aura l'arrivée du quantique qui sera encore une autre révolution. On en parlera peut-être dans quelques temps.
D'accord.
Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'adapter les formations informatiques de telle manière à ce qu'on ait des jeunes qui arrivent sur le marché équipé par rapport aux attentes de l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On a des formations informatiques très traditionnelles et donc c'est difficile pour ces juniors de faire le pas en entreprise parce que les entreprises recrutent des personnes qui ont la capacité technique, technologique, donc qui sont habituées à l'outil IA. Donc la demande est importante, mais la formation n'a pas prévu ça. Donc on a une rupture entre finalement la sortie de l'école et l'entrée en entreprise.
L'école a toujours été en décalage avec le monde professionnel dans l'informatique. Moi, je me rappelle à une époque, durant les années start-up, lorsqu'on inventait, ce sont les universités qui venaient nous voir pour savoir ce qu'il fallait expliquer aux étudiants. Il y a toujours un petit décalage.
Oui, effectivement, très souvent, ça c'est le biais, mais on a des enseignants qui ne viennent pas du monde de l'entreprise. Et donc, c'est délicat de former uniquement sur la technologie sans former dans le contexte de l'entreprise.
C'est pour ça qu'ils prenaient des vacataires qui étaient intervenants, qui étaient consultants, pour leur demander quelles étaient les pratiques.
C'est ça.
Tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est encore un métier d'avenir où il vaut mieux aller faire plâtrier peintre ou mécano. C'est une question qu'on se pose vraiment pour nos enfants.
Oui, oui, oui. C'est un métier d'avenir, mais le premier barreau de l'échelle est plus élevé qu'il ne l'était. C'est-à-dire que pour rentrer dans le système, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme l'IA accélère finalement les opérations informatiques en entreprise, on a besoin schématiquement de moins de personnel. C'est-à-dire qu'avant, on codait une application sur une durée avec une grosse équipe. Aujourd'hui, on est capable de réduire cette équipe et de réduire la durée également. Ce qui signifie qu'en termes de recrutement, comme on réduit l'équipe, il y a moins de demandes de recrutement de juniors. Alors pourquoi de juniors et pas de seniors ? Parce que le senior, finalement, il va tirer parti de toute la capacité de l'IA parce qu'il a cette expertise. Voilà. Le junior,
le métier s'est transformé. Vous avez un stagiaire à domicile à côté de vous que vous utilisez plus ou moins. Mais si vous êtes en train d'apprendre, ça ne marche pas. Par contre, si vous êtes devenu quelqu'un qui est sensible, par exemple, aux patterns qui se répètent, avec un petit peu d'expérience et autres, c'est un super outil. Et c'est pour ça qu'Amazon a, je crois, a viré tous les jeunes développeurs et qu'on a un problème d'embauche des juniors parce que cette phase d'apprentissage est nécessaire sans l'IA avant de pouvoir, en fait, devenir tout de suite dans l'encadrement. On ne passe pas dans l'encadrement tout de suite.
Et c'est ça, il y a le double effet qui se coule. Il y a, à court terme, cette incapacité de recruter les juniors et la conséquence à long terme, c'est que quand les seniors actuels seront des boomers, partiront à la retraite, on n'aura pas les relais.
Oui, mais ça, c'est dans beaucoup de domaines. Sachant qu'on est en train de se rendre compte qu'on remplace en fait des juniors et des personnalités dans les basses grilles de salaire par quelque chose qui en fait coûte beaucoup plus cher. Parce que si on était au coût réel d'utilisation de l'IA, on serait au-dessus du coût du salarié qu'on est en train de faire partie.
Alors c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que on n'utilise pas l'IA de manière inappropriée. En l'occurrence, en entreprise, on doit maîtriser les coûts et non pas avoir un système en production basé sur l'IA dont on verra à la fin du mois combien ça a coûté à faire fonctionner. Ça, c'est valable sur les opérations en production, mais également en amont sur le périmètre de la construction des outils. Et donc, c'est une pratique. C'est un peu comme une Ferrari. Il faut apprendre à la conduire. Ça se conduit pas comme une deux chevaux. L'IA, c'est pareil. On va réfléchir sur la façon de travailler le token parce que finalement, c'est un peu l'épice de Dune, le token de l'IA. Si je veux faire une analogie, c'est ce qui est vraiment précieux.
Non, mais elle est bien.
c'est le précieux. Et donc, il ne faut pas le gâcher, le token. Et donc, il y a l'aspect financier de l'usage de l'IA.
Oui, mais qui est sous-vendu actuellement. C'est-à-dire qu'on a en fait des tarifs chez Claude et chez les autres qui sont inférieurs au prix de revient réel. Et donc, j'ai vu passer des chiffres. Un développeur de 3, qui a un coût de 4 000-5 000 $ qu'on va renvoyer et qu'on va remplacer par une IA qui a un coût réel de 110 000 si jamais il était facturé au véritable coût de revient qu'il avait.
Ouais. Oui, on a des métriques là-dessus. Le fondateur d'OpenClaw, cet automate intelligent qui a un peu révolutionné l'IA il y a quelques mois, il a été embauché ensuite par un groupe d'IA. En token utilisé, il a utilisé l'équivalent de 1,2 million $ en token pour faire son outil.
Là, ça en fait des litres d'eau. Là.
Voilà, exactement. Donc très rapidement, effectivement, on peut être sur de la consommation très très onéreuse.
Oui, parce que le marché est encore compétitif, donc pour l'instant, on n'a pas les prix réels du marché. Donc on est en train de remplacer des gens par quelque chose qui est sous-vendu. Ouais. Et lorsqu'on va arriver au tarif réel, on va avoir à la fois les problèmes des experts, des anciennes générations qui vont partir, des jeunes qui ne se seront pas formés et des coûts qui vont augmenter, à moins bien sûr que l'infrastructure fasse que les coûts généraux diminuent.
Alors on a un problème de visibilité sur ces coûts. Si on regarde le mois de juin, ce qui va arriver... On a Anthropic, donc Claude, qui va passer finalement à l'usage, enfin la facturation au token sur les consommations API plus, et non plus sur le forfaitaire qui était justement sous-vendu. Les dernières semaines, sur les mêmes forfaits, Claude a baissé la quantité de token disponible. Donc quelque part, c'est une fluctuation encore du prix. Donc on n'a aucune maîtrise de combien ça va nous coûter si on utilise ces outils-là. Et en regard de ça, on a un risque géopolitique qui vient de l'Asie. À savoir, les deux plateformes IA sont les Américains et les Chinois. Les Américains avec Claude, avec ChatGPT, avec Gemini. Les Chinois avec DeepSeek, avec Qwen, avec Z.ai, etc. Ce sont des IA à peu près équivalentes. Et la stratégie tarifaire de la Chine est plutôt l'inverse, c'est de casser les prix. C'est-à-dire que à ce moment de rupture où les Américains montent les prix, les utilisateurs vont se poser la question, est-ce que finalement la valeur produite correspond au prix que je vais payer ? Et l'alternative va être de payer moins pour en avoir plus. En l'occurrence, une bascule sur les IA chinois, avec les risques que ça représente.
Bon, et avec ça, moi, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec David et Jonathan, qui aujourd'hui sont dans Parcoursup. Est-ce que je les envoie en IUT, puis en école d'ingénieur informatique ? Est-ce que, en tant que parent, c'est ça que je leur conseille ? C'est une grande question que je peux avoir.
Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire que on va dans un monde qui est de plus en plus numérique. Donc, les métiers du numérique ne vont pas disparaître. Ils vont changer. Au même titre qu'on a eu le fax qui a disparu au profit de l'email, ça ne s'est pas fait en quelques mois, mais malgré tout, le comportement et les usages ont changé. Et le métier n'a pas disparu. Il a fallu encore communiquer. Au contraire, on a communiqué davantage. Et là, on est finalement sur une accélération temporelle grâce à l'IA. C'est-à-dire que les besoins vont s'accélérer. Les attentes vont également s'accélérer. Donc, oui, il y a du business à faire sur le périmètre du LIA, ça signifie qu'on peut faire carrière dans ce contexte, dans l'avenir, avec des jeunes qui n'y connaissent rien aujourd'hui et qui vont démarrer leurs études post-bac.
S'ils sont bons. On va dire qu'il restera de la place des experts et des gens doués. Alors, il y a encore une niche pour les gens qui ont un potentiel et qui sont haut du panier.
Les experts, on va dire, c'est les seniors.
Oui, non, mais ceux qui sont aptes à le devenir, on va dire. Voilà, c'est si vraiment,
exactement.
S'ils ont la flamme, s'ils sont bosseurs, s'ils sont doués, oui. S'ils sont moyens ou peu motivés, peut-être
voilà,
pas.
Et la différence, ça va être entre la flamme et la flemme.
Oui, je pense que ça va se passer très clairement là.
Il y a le soft skill où, à partir du moment où on est actif sur son avenir, on va pouvoir être devant les autres. Mm-hmm. Ceux qui suivent le train se feront dépasser par ces locomotives.
Oui, oui, comme à une époque, on m'avait dit, si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, c'est celui qui saura qui s'occupera de vous.
C'est exactement ça.
Là, aujourd'hui, à part que, je pense qu'on rétrécit. C'est un peu Elyséum. Hein. Il y aura les personnes qui vraiment seront en haut et puis les autres, ils n'auront pas grand-chose, en fait.
Il y aura des nouveaux métiers.
Sauf les métiers manuels, je pense, peut-être.
Alors, les métiers manuels vont se renchérir, hein, effectivement. Donc, ça va redevenir intéressant d'aller sur ce type de carrière professionnelle. Malgré tout, ce n'est pas parce qu'il y a moins de personnes nécessaires sur les métiers historiques de l'informatique que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Parce que, justement, on va avoir cette pénurie lorsque les seniors partiront.
Est-ce qu'on peut faire carrière ? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. À l'allure à laquelle ça va, aujourd'hui, on est encore chef d'orchestre en train de diriger des IA comme si on avait une équipe de développeurs. Donc, le chef de projet, quelque part, il a muté, il ne parle plus à des êtres humains, mais il parle à une IA dont il s'approprie le travail et qu'il va encadrer, un peu comme un chef d'équipe. Mais à l'allure où ça va, peut-être qu'un jour, le chef de projet, ce sera une IA aussi, c'est possible. Hein.
Alors, ça, c'est l'initiative MacroHard de Elon Musk, hein, fait un pied de nez à Microsoft. MacroHard, donc, c'est une entreprise avec un giga data center où il n'y a pas d'humain, il n'y a que de l'IA, avec pour objectif de faire la production software uniquement à base d'IA. Donc, on sait qu'on va dans ce type de direction. Mais ça ne veut pas dire que l'informatique n'est que de la production de soft. Il y a énormément de métiers de l'informatique.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a un, si j'avais dû prendre l'avion un jour pour aller bosser pour quelqu'un, ça aurait été lui. Bon, alors, passons. Et le marché des consultants en informatique. Difficile de parler d'informatique sans parler des SS2I, de leur nouveau nom aujourd'hui.
ESN. Là,
pardon ?
ESN.
ESN, voilà, c'est juste un rebranding, là, parce qu'on les appelait vendeurs de viande aussi à une époque. Là,
oui,
ça a un petit peu changé. Mais comment se porte le marché des consultants en informatique, les SS2I ? On entend parler de licenciement, on entend parler de suppression des juniors. En même temps, il me semble qu'Atto, ça a des bons résultats. Ce marché des consultants, on vend encore des êtres humains à des structures comme des grosses structures qui vont nous déléguer en fait toute la partie RH pour utiliser uniquement la partie production. C'est un modèle commercial qui marche encore, ça ?
Alors, ça marche encore, mais les attentes des entreprises sont différentes.
D'accord.
On a gagné énormément d'argent sur la transformation des entreprises pour les passer au digital.
Suppression papier.
Exactement. Voilà, ça, c'était absolument. Un grand mouvement.
Oui, oui. Et là, c'était bien, d'ailleurs, ça.
On commence un deuxième mouvement, c'est le passage à l'IA des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'IA existe que les entreprises savent l'utiliser et apporter la valeur par rapport à leur métier. Et c'est là, justement, où on a les ESN qui peuvent intervenir pour accompagner dans la transformation de ces entreprises vers l'IA, vers le bon usage de l'IA. Et en l'occurrence, concrètement, comment ça se passe ? C'est un gain progressif de maturité, aussi bien des personnes que des équipes, pour progressivement aller de l'awareness, c'est-à-dire la connaissance premier niveau, jusqu'à l'équipement, c'est-à-dire l'usage au quotidien, voire l'étape suivante, c'est l'orchestration des agents, c'est-à-dire mes collaborateurs sont numériques et je ne produis rien, j'orchestre la production, jusqu'au dernier niveau, qui est la transformation de l'entreprise, parce que les anciennes méthodes agiles ne sont pas adaptées à cette révolution de l'IA.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, en fait, que le niveau technique demandé ou nécessaire est en plein effondrement et qu'il y a un petit nivellement par le bas ? À une époque, réaliser un logiciel, c'était vraiment, c'était quelque chose, quoi. On avait informatisé, MCM, c'était à Médiamétrie, le quatrième site de France. On participait à la conception du langage, des versions de PHP, PHP 3, PHP 4, etc. Il y avait un niveau. Aujourd'hui, n'importe qui vient installer un petit WordPress en cliquant sur un bouton. Très bientôt, mettre un MLM sur sa tour d'ordinateur et puis commencer à l'entraîner sur ses emails, ça va être à la portée de n'importe qui, niveau nul. Donc la valeur ajoutée de l'expert, en fait, elle est où ? Qu'est-elle devenue ?
Alors, quelqu'un qui apparaît finalement dans cet écosystème sans avoir cette expérience va passer à côté d'énormément de sujets. Le sujet de la scalabilité. Est-ce que il va tenir en production la quantité d'utilisateurs ? Le sujet de la sécurité. C'est-à-dire que quand on fait du vibe coding, finalement, on crée tout un ensemble de dettes techniques parce que ça répond aux besoins qu'on a exprimés et non pas aux besoins qu'on n'a pas aimés. Et les sujets de sécurité font partie de cette dette et c'est très difficile de les adresser a posteriori plutôt qu'a priori parce que ça a un impact sur l'architecture du logiciel qu'on produit.
Oui, à une époque, un expert, à la grande époque, c'était 100, 150 appels téléphoniques par jour pour « s'il vous plaît, venez travailler pour moi ». Aujourd'hui, un expert, c'est quelqu'un qui va demander à Claude ce qu'il faut faire et puis qui va aller mendier du travail. Ce que j'ai regardé. Il y a vraiment un inversement de valeur.
Alors ce sont les nouveaux experts. Vous avez remarqué que sur LinkedIn, on voit beaucoup d'experts IA. Et ces experts IA sont plutôt jeunes.
Ils écrivent des prompts.
C'est
là.
Ça, exactement. Voilà. Ils sont plutôt jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas l'expérience nécessaire derrière l'IA. Et pour se prévaloir d'une expertise IA opérationnelle, il est nécessaire d'avoir, sur le fond, l'expérience qu'il y a derrière, au-delà de l'IA.
Bon, les SS2I, ça, ils font de l'argent.
Oui, même s'il y a des... changement d'acté et d'orientation stratégique.
Quelles sont les grandes demandes aujourd'hui ? Aller mettre du MLM en local ? Aller mettre de l'IA dans les sociétés ?
Sur quoi ? On a deux types de sujets par rapport à l'IA. On a le sujet sur la construction, qui est le métier historique des ESN, c'est-à-dire ils mettent d'œuvre, ils produisaient le logiciel. Et ensuite, on a le périmètre du run. Sur le périmètre du run, c'est le périmètre le plus à risque aujourd'hui. C'est-à-dire que ça permet trop facilement l'exfiltration de données et le service rendu n'est pas le bon. C'est-à-dire que l'IA a des biais, l'IA hallucine. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de déterministe, et donc ça a un impact sur le résultat final. Donc aujourd'hui, l'IA en production est un risque très important, un risque majeur, qui n'est pas encore vraiment maîtrisé. Et l'IA sur la construction...
Oups, mes fichiers,
oui,
nous sommes
ça.
Vraiment désolés. Bon. Voilà. Mais elle s'excuse très bien, l'IA d'ailleurs.
On l'a même sur la construction. Hein. J'ai Gemini qui s'est excusé une fois d'avoir fait une erreur humaine. Donc Gemini, c'est une IA qui a fait une erreur humaine. Et qui s'excusait que le code a explosé. Voilà. En l'occurrence, il n'y avait plus rien.
Oui, enfin, on ne donne pas son code à Gemini aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. Voilà. Il y a un choix.
Il y a des limites à tout.
Il y a des limites à tout, voilà. OK. Mais bon, ça revient un petit peu, moi, sur une remarque que je m'étais faite. Hein. Là, j'ai des amis qui sont encore, notamment en province, le gros du marché est en Île-de-France et puis un peu à Sophia Antipolis, mais on va dire il y a beaucoup à Paris. En Franche-Comté, j'ai un ami qui me dit, voilà, j'ai une web agency. La web agency, une époque, on faisait du web. Enfin, on faisait des logiciels, un peu d'informatique de gestion, enfin, on fait ce que les gens nous demandent. Hein. Et puis aujourd'hui, on va installer des trucs dans les PME, des MLM, on clique, on n'est plus des ingénieurs du tout. Donc, on va vers les grosses SS2I qui, elles, vont travailler sur les gros projets. On revient encore sur cet entonnoir et il faut aller aux endroits où ça mousse pour retrouver un niveau qu'on voit plus forcément un peu partout.
Oui, les grands comptes sont principalement quand même en Paris, région parisienne. Donc le business sur les gros projets, les grands comptes sont dans ces zones-là, au delta près de certains secteurs. L'aviation, ça va être plus Toulouse. L'assurance, ça peut être Niort.
Mais ils vont prendre des consultants dont la maison mère est en Île-de-France.
Oui, très souvent. Oui, très souvent. Oui, oui. Et ça ne laisse pas beaucoup de place pour les indépendants. Et au niveau des indépendants, ce qui se passe, c'est qu'on a un marché qui change un petit peu parce qu'on a des grands comptes qui se dessaisissent finalement des projets tenus exclusivement par les grandes ESN et qui constituent un écosystème d'indépendants qu'eux-mêmes pilotent sur projet. Donc on a cette mouvance, c'est-à-dire que l'indépendant, en fait, il est sur une société de portage, et c'est la société de portage qui contractualise avec le grand compte. L'indépendant, il contractualise avec la société de portage et il va y avoir ainsi 10-20 consultants sur le projet.
D'accord. Donc là, excellente transition. Le métier d'indépendant d'informatique a beaucoup transitionné, a beaucoup pivoté depuis 20-25 ans. Le fait de partir maintenant dans la jungle avec sa serpette, comme ça, en disant « j'ai des compétences et je vais travailler en faisant mon truc dans mon coin » et autres, ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître.
Oui, c'est-à-dire qu'on est sur quand même des projets de groupe avec ces méthodes agiles.
Il n'y a plus de petits projets ici et là qui ont une valeur où il faut vraiment des gens assez intellectuels pour les faire. Maintenant, là où il y a besoin de gens avec un niveau, ça s'est centralisé et on passe par des intermédiaires, des grosses S2I.
Oui, et donc on est plus tout seul. Ça se centralise et ça se spécialise.
Donc, indépendant en informatique, c'est peut-être... D'ailleurs, maintenant, vous venez de dire vous-même, ils sont quasiment tous salariés. En Europe, ils passent pour une boîte de portage.
C'est
donc,
ça.
Ils ne sont plus vraiment indépendants, quelque part.
Oui, oui. Donc, ils peuvent choisir finalement leurs clients, quelque part. C'est une forme d'indépendance.
Oui. Sauf que lorsque vous en avez un seul, vous savez comme moi que quand vous avez un seul client, est-ce que vraiment vous êtes chef d'entreprise et vous développez votre
projet ?
Non,
d'autant plus que la difficulté en indépendance, c'est le changement de contrat, c'est la démarche commerciale.
Oui.
L'informaticien n'est pas un commercial, c'est vraiment sa grosse difficulté de trouver le client suivant.
C'est difficile de faire les deux en même temps.
Oui.
C'est possible, mais quand on fait du commercial, on n'est pas en train de produire.
Oui, mais surtout pas sur un junior. Le junior n'a pas le réseau de relations suffisant permettant facilement de rebondir sur un autre projet.
Non. Donc en fait, consultant salarié, ça existe encore. Par contre, demain, je vais devenir informaticien indépendant, je vais créer une petite société, je vais embaucher un peu, et c'est plus un modèle d'avenir. Je le sens pas comme ça. Je ne vois pas le truc venir. Là.
Non, d'autant plus, créer une entreprise et embaucher, c'est difficile dans le contexte français où on a la réglementation, la fiscalité, tout un ensemble de pressions, alors que l'informaticien, son métier, c'est l'informatique, c'est pas l'administratif.
Non, mais on rêve tous d'aller vendre du Winamp à Carrefour. On veut tous faire ça, en fait. Non, mais je vois ce que je veux dire, quoi. On rêve tous d'avoir un produit, de pas dépendre d'un seul client, et puis d'arriver... beaucoup d'entre nous, là, vous, moi, on va être clair, il y a 20 ou 30 ans, on aurait été en Californie. Aujourd'hui, on aurait 25 personnes et notre retraite, on se la serait faite nous-mêmes.
Tout à fait.
Par contre, est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui, ici ? Je ne suis pas certain.
On peut avoir des bonnes idées en France.
On peut avoir des bonnes idées. Ah, j'ai une boîte à pertes, elle est magnifiquement remplie. Ça, c'est clair. On peut encore avoir des bonnes idées. Tiens, d'ailleurs, en France, on en parlait un peu au départ. Est-ce que vraiment on est à égalité en France, nous, avec le reste du monde ? L'Europe est-elle à égalité au niveau souveraineté dans ce grand monde qui, aujourd'hui, on va être clair, c'est USA, Amérique de l'Ouest, c'est Asie du Sud-Est. C'est là-bas qu'on voit les taxis autonomes, c'est là-bas qu'on voit les fusées, c'est là-bas qu'on voit les innovations technologiques, c'est là-bas qu'on voit les arrivées de l'IA, c'est là-bas que ça se passe.
Oui, mais on est quand même numéro un. On est numéro un sur un domaine très...
Inspecteur des travaux finis.
Non. On le voit à l'actualité quasiment tous les jours.
Pardon.
On est le bac à sable du monde. On est numéro un sur la fuite de données.
Oui. Ah bah oui.
Oui.
Ah bah oui. Non mais je me souviens, moi, à l'époque, de mon petit militantisme pour Linux et compagnie. Mais oui, tout à fait. On est open source. on est open
exactement.
Bar, ouais.
Et ça montre que finalement, cette expertise, elle est aux États-Unis, elle est en Chine. Elle n'est plus en France, même si on peut avoir quelques bons acteurs comme Mistral, comme Dassault.
Mistral qui nous sauve aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, qui nous sauve...
Dassault qui m'a épaté, qui est devenu un super créateur de logiciels, en fait. Ils font des trucs magnifiques, actuellement.
Oui. On a des éditeurs de logiciels industriels qui sont numéro un. On a de la capacité. Seulement pour faire le lien avec les freelances et les juniors, pour arriver à lancer un produit révolutionnaire, autant jouer au loto. C'est très difficile. C'est-à-dire que...
Les gens se forment ici, puis ils partent.
En fait, ils n'auront pas le budget en France pour le faire. Parce que le capital risque, il est beaucoup plus facile aux États-Unis qu'en France, parce que la pression fiscale, financière est beaucoup plus importante en France, et donc ce n'est pas le bon endroit pour ce type d'initiative. Et de toute façon, même s'il commençait à décoller en France, très rapidement, il sortirait de la France stratégiquement.
Alors, votre avis, là, qu'est-ce qui est bien pour nos enfants, pour notre futur, pour la France, pour l'Europe, tard. Il faut qu'on fasse quoi ? Notre microprocesseur, notre OS, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous sauver éventuellement pour qu'on garde, pour qu'on arrête de vendre tous nos talents à l'étranger et que si jamais géopolitiquement l'Amérique s'éloigne, la Chine s'éloigne, qu'on ne se retrouve pas illettré digitalement ?
Oui, alors on ne peut pas tout faire nous-mêmes et donc il faut s'appuyer sur des partenaires qui ne sont pas nécessairement très loin. Par exemple, sur les microprocesseurs aux Pays-Bas, il y a quand même une entreprise.
En Allemagne aussi.
Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de tout faire sur le sol français. Par contre, il est nécessaire de pouvoir se prémunir des nouveaux risques que ça présente la situation actuelle, à savoir le kill switch. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut avoir une interdiction d'export de capacités numériques à l'étranger depuis un pays sur lequel on est lié pour le fonctionnement de notre système d'information.
Mais les USA nous tiennent, on va le dire.
Exactement. Ça peut être les data centers. Alors, le marché, il est tenu principalement par les trois qui sont Google Cloud Platform, qui sont Amazon, qui sont Azure. Les grandes entreprises tournent là-dessus. C'est un risque majeur. Sur la data également, avec ces lois extraterritoriales qui permettent à des pays étrangers de venir consulter nos données sans même qu'on le sache, c'est un risque majeur par rapport à la souveraineté, plus encore la souveraineté sur la gestion de l'identité. Donc il y a tout un ensemble de sujets qu'il faut qu'on réaligne. C'était la fête pendant les 10 dernières années, les 20 dernières années, depuis l'arrivée du cloud en 2006, donc ça fait 20 ans, mais on n'a pas considéré cette nature de risque. Alors qu'on a des acteurs français ou européens qui permettent d'avoir un système d'information moins exposé.
On a encore de bons ingénieurs. On a encore très très bons ingénieurs.
Oui.
Mistral,
oui, oui.
C'est nous, et franchement, quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est pas mal.
Oui, oui, tout à fait. Et même en amont, sur le périmètre de la recherche, on est reconnu sur ce périmètre en France. On a des têtes. Maintenant, c'est derrière la partie business qui est compliquée dans le contexte.
Bon, Jean-Luc Antoine, on vous trouve comment si on veut vous parler, vous poser des questions, voire vous faire travailler un peu ? Comment est-ce qu'on vous trouve ?
Donc, mon entreprise, Ceci Show, nous sommes spécialisés sur la confidentialité. C'est une sous-partie de la sécurité. C'est-à-dire que quelque chose de confidentiel est sécurisé, mais ce n'est pas l'inverse. Et donc, sur ce périmètre, il suffit d'aller sur notre site web. Alors, Ceci Show, ça s'écrit en anglais. ceci.com ou .fr, vous nous trouverez.
D'accord. Vous êtes à Périgueux, mais je suppose que votre cible n'est pas que périgourdine.
Non, effectivement, nous avons des clients en région parisienne parce que les gros clients sont là-bas.
Oui.
Et donc, régulièrement, nous allons traiter là-bas, oui.
Voilà. Mais bon, vous avez la douceur de vivre du Périgord. Vous avez réussi à quitter le monde du métro.
Exactement.
Bravo. Jean-Luc, merci d'être venu.
Merci, Stéphane.
Merci beaucoup à tout le monde. À la semaine prochaine. Ne bougez pas, c'est la suite des programmes sur RLP sur 102.3. Au revoir.
RLP Business.
RLP. Radio Libre en Périgord.